Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici votre émission préférée, Économie en folie, avec Bernard Ferrand. Bonjour.
Bonjour.
Et on va parler de notre vieille Europe, de notre vieux continent.
Et oui, on va parler de l'Europe. À quelques mois des élections qui ont lieu au mois de mai, selon la loi, c'est l'échéance, on va voter pour les députés, eh bien on va parler de cette Europe.
Bien, l'Europe, c'est beaucoup de pays.
Ben oui, aujourd'hui, on est 27. À l'origine, on n'était que quelques-uns. Il faut se rappeler qu'à l'origine, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que beaucoup de gens responsables ont dit « plus jamais ça », bien sûr.
Oui.
Mais on avait eu la même expérience en 1919. Que fait-on ? Donc, on a commencé à passer des accords pour la reconstruction. Mm-hmm. Ça a été la Communauté européenne du charbon et de l'acier, par exemple, qui s'en souvient, pour éviter qu'il y ait une concurrence acharnée entre les pays européens, ce qui aboutissait effectivement à une diminution de l'emploi, etc. On a commencé à construire progressivement une unité européenne en se mettant d'accord pour régler des points sensibles. Dès le début, ne jamais oublier qu'il y avait... Il y avait dans les fondateurs, il y avait quand même très fortement la France, l'Allemagne, l'Italie.
Oui. À plusieurs pays, on fait finalement un grand pays. Est-ce qu'il y a un budget européen ?
L'Europe est constituée de 27 États. Vu son succès, elle s'est développée et beaucoup d'États ont adhéré. Mais je pense qu'on y reviendra un peu plus loin. Et en ce qui concerne le fonctionnement, là aussi, il y a eu des progressions en termes de démocratie. Mais c'est toujours, comme on dit à notre époque, c'est du deuxième au deuxième rang. Ce n'est pas une démocratie directe. Et c'est en cela qu'on en regrette. Quoique on élit directement les députés européens, c'est déjà pas mal par rapport au projet d'origine. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. L'Europe a un budget.
Oui.
Chaque État contribue à l'Europe selon une règle très précise par rapport à son PIB et par rapport à son nombre d'habitants. Ce budget est important tout en n'étant pas immense. C'est une des caractéristiques de l'Europe. On en parle énormément. Elle agit, on le voit, dans beaucoup de secteurs. Et pourtant, son budget est de l'ordre de 150 milliards, ce qui n'est finalement que à peu près 35%, 40%, dirons-nous, du budget de la France. Ce n'est pas énorme comme budget, mais il a un rôle fondamental puisqu'il s'applique sur des points précis. En particulier, la dépense essentielle pour le budget européen, c'est l'aide à l'agriculture. Et ceci pose question et posera question dans le futur.
Oui, parce que ce qui apparaît à tout un chacun et tout ce que les gens en disent, tous ces pays qui forment l'Europe ne sont pas sur le même pied d'égalité.
Ne sont pas sur le même pied d'égalité, on pourrait dire non, dans le terme de la représentation. Le système de calcul du nombre de députés européens est extrêmement précis et vise justement à ce que les petits pays soient représentés d'une manière significative, ce qui se fait au détriment des plus peuplés quelque part. Donc il y a une espèce d'harmonisation à ce niveau-là. Ensuite, le Conseil européen, qui est en fait le Conseil des ministres, si vous voulez, chaque pays a un membre du Conseil européen, ce qui était extrêmement important. Si vous imaginez, Malte a 6 députés et a un ministre qui est membre du Conseil européen pour un pays tout petit. On peut parler de Luxembourg, etc. C'est la même chose du point de vue de l'égalité. Dans ce point de l'égalité de la représentation, bien sûr, ça a un jeu sur l'attribution des crédits. Mais si nous revenons à ta question initiale, à savoir les pays qui ont adhéré, ils avaient des poids différents, mais surtout des poids économiques différents.
En économie, en termes d'économie, justement, on n'est pas égalitaire. C'est-à-dire que les charges d'un pays vont être moins chères qu'à d'autres. Et ça, il faudrait que ce soit tout pareil.
Eh bien, justement, ça a été construit pour que ça soit tout pareil à horizon lointain. C'est la reconstruction de l'Europe. Le projet d'origine, c'est d'établir une Europe en paix, premièrement, et c'est extrêmement important, puisque les conflits, ont, pour la plupart des cas, ont une origine économique. Donc une Europe en paix, et que les pays qui étaient, comme on dit vulgairement, en retard, eh bien on les remette à niveau. Et pour les remettre à niveau, on les aide. L'exemple, nous l'avons à côté de nous, absolument à quelques centaines de kilomètres. Vous prenez l'Espagne. L'adhésion de l'Espagne a transformé totalement le pays. Pour ceux qui l'ont connu il y a 40 ans, et ceux qui y vont aujourd'hui, ils ne reconnaissent plus ce pays. dans de bonnes choses et de mauvaises choses. Et bien entendu, quand on voit une partie de la côte méditerranéenne de l'Espagne peuplée de tours les unes contre les autres, ça n'a aucun sens. Simplement, c'est beaucoup les Anglais qui viennent bronzer au soleil. L'été, c'est plein. Mm-hmm. Mais bon, ça détériore tout, d'accord. Mais quand on voit l'Espagne, les crédits européens l'ont aidé à atteindre notre niveau d'équipement routier, par exemple. Notre niveau d'équipement au niveau des universités. Il en est de même pour l'Italie. Je suis au regret de dire à M. Salvini qu'il profite des impôts des Français et des Allemands. Plein pot, ils en ont profité. Et oui, c'était notre argent qui allait au niveau européen et l'européen distribué. D'ailleurs, il continue. Il a des programmes d'aide et qui concernent tous les pays, mais plus fortement les pays qui sont en retard. Et ça, il y en a combien qui l'oublient ? C'est nous, les pays riches, qui avons aidé les pays les plus en arrière. Oui. Maintenant, beaucoup de ces pays sont très proches de nous. Et certains de ces pays qu'on a aidés massivement protestent, disent que l'Europe, ça ne les intéresse plus, etc. Moi, personnellement, je tombe des nues.
Oui, tout à fait. Là, je vous rejoins. Vous l'avez dit, ce sont les pays qui financent le budget de l'Europe. Où vont les dépenses ?
Alors, les dépenses de l'Europe sont assez, comment dirais-je, simples. Le grand budget, pour vous donner une idée pour 2017, pour avoir une petite idée sur 2017, 56 milliards sont allés à l'agriculture et à la pêche. Les deux sont liés. En France, on connaît très très bien les crédits européens. Hein. Je vous assure que c'est extrêmement important pour nos agriculteurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la politique de cohésion, dont je viens un petit peu de parler, avec 47 milliards. Cette politique de cohésion, c'était pour amener des pays ou des provinces ou des zones de pays à notre niveau, pour les aider concrètement. Oui. Ce n'est pas la France qu'on va aider à faire des routes. Il y en a partout. Mais il y a des pays où il y a encore des chemins qui sont du caillou. Alors pourquoi ne pas les aider ? Ensuite, il y a des crédits. Alors vous voyez, les chiffres vont tomber. 11 milliards pour la recherche et le développement. Eh bien, c'est là l'Europe aide de la recherche qui doit répondre à des critères par rapport à des objectifs. Donc l'Europe ajoute des crédits. Par exemple, il y a un programme de recherche, on va parler d'agriculture, par l'école d'agriculture de Toulouse, hein, sur des thèmes précis avec des chercheurs, des doctorants, des professeurs d'université. Ils ont besoin de crédits qui vient du ministère de l'Éducation et de la Recherche, et puis ensuite des crédits européens. Donc il y a des procédures très précises. Et aussi dans la politique de cohésion, puisque nous sommes dans le grand Volvès, en quelque sorte, il y a le programme FEDER, que tout le monde connaît, qui aide des associations, qui aide des communes à faire des projets, et qui finance des projets très fléchés, absolument. Et par exemple, dans notre Volvès, de multiples opérations bénéficient de ces crédits. Mais ça, on ne le voit pas. Ça, on ne le sait pas, ou ça, on l'a oublié facilement.
Oui.
L'Europe, elle est là, et elle aide, et elle ne met pas 36 000 conditions, hein, et elle n'est pas là pour tout contrôler sur place. C'est faux. L'Europe vous fait confiance, elle fait confiance à celui qui a sollicité le crédit. Et ça, c'est énorme, c'est extrêmement important. Ce qui explique que le nombre de fonctionnaires européens n'est pas très important. Ce sont les États qui sont chargés de la mise en œuvre de l'aide européenne quand c'est local. Ensuite, pour revenir au budget européen, il y a l'administration globale du système, ben ça représente 10 milliards. Et puis, il y a une petite orange pour les pays pauvres. Il y a une aide en développement de l'ordre de 9 milliards, c'est-à-dire que l'Europe, là aussi, aide l'aide au développement. C'est-à-dire s'il y a des crédits d'autres organisations internationales, etc., l'Europe peut mettre des sous dans ses opérations pour les pays pauvres. Hein, et en particulier ceux qui nous sont liés historiquement, des pays d'Afrique noire par exemple, ou des pays du Maghreb. Et après, un budget qui me tient énormément à cœur, c'est le programme Erasmus. Là, il y a 2 milliards.
J'allais y venir.
Mais leur programme Erasmus, c'est un financement du déplacement d'étudiants d'université en université en Europe. Bon, par exemple, vous êtes dans l'université à Toulouse 1, à Toulouse, ou à Toulouse 3, vous êtes au Mirail, vous êtes à Jean Jaurès, vous êtes à Paul Sabatier, dans votre travail d'étudiant, un peu vers la fin d'études, en troisième année par exemple. Vous pouvez aller faire votre troisième année à Madrid, à Valence, à Barcelone, à Rome, à Padoue, à Francfort. Sans problème. Une partie vous est financée. C'est ce programme Erasmus.
Oui.
Et tous les étudiants qui en ont profité en ont tiré une expérience remarquable.
Et oui, ça,
un savoir-faire
Oui.
Remarquable. Et même une capacité, ça augmente leur capacité dans leur secteur de passion. Ça peut être des chercheurs, ça peut être des gens qui s'en vont vers la gestion, qui s'en vont vers le droit. Et c'est très, très important d'aller se comparer et vivre un petit peu ailleurs.
Oui.
Et d'ailleurs, souvent, lorsqu'ils racontent, c'est qu'ils ont eu de vraies vies étudiantes, passionnantes, dans leur lieu, dans ce nouveau pays. Et nous aussi, on accueille des étudiants venant de toute l'Europe.
Mm-hmm.
En ce qui me concerne, je travaillais à Paul Sabatier, par exemple. Bien, on avait des étudiants espagnols, on avait des étudiants allemands, on avait des étudiants danois et on avait des étudiants italiens ponctuellement qui venaient pour 6 mois, par exemple.
Mm-hmm.
J'ai eu des étudiants irlandais qui arrivaient, qui étaient là pour une année complète. Et qui y arrivait, il ne parlait pas un mot de français. À la fin, au bout de 6 mois, je vous assure, il se débrouillait très, très bien. Beaucoup
obligé.
Mieux que moi dans leur langue, en quelque sorte.
C'est l'immersion qui fait tout.
En ce qui concerne, pour toujours rester dans les chiffres, il faut quand même en parler un peu,
oui.
C'est la réalité.
Oui.
La France utilise, c'est elle qui est le premier utilisateur du budget de l'Europe, c'est presque 15 milliards. Évidemment, c'est le chiffre 2015, et l'essentiel, et pour la PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune. Je le dis et je le redis sur Radio Galaxy. L'Europe, si jamais elle éclate, eh bien, vous pouvez dire à tous nos collègues, tous mes amis, à mes parents agriculteurs, eh bien, vous allez rentrer dans une période inconnue, extrêmement difficile pour vous. C'est très clair. C'est malheureux, mais c'est une réalité. C'est malheureux que l'agriculture doit être soutenue aussi massivement pour que les agriculteurs arrivent à survivre, pour certains d'entre eux, ou à vivre, pour ceux qui ont peu de chance, alors qu'on y met autant, autant d'argent. Jusqu'à quand les contribuables vont vouloir payer ça? Jusqu'à quand? Voilà une question de force à notre époque, vu tout ce qu'on a vu au niveau sociétal depuis l'automne.
Oui, je voudrais quand même, il y a une question fondamentale, c'est que les agriculteurs ne peuvent pas vivre de leurs ressources. Et ça, c'est lamentable.
Absolument lamentable.
Donc évidemment, on compense par des subventions qui arrivent de l'Europe, mais le jour où il n'y aura plus de subventions de l'Europe, ces agriculteurs, ils ne peuvent plus vivre. Si on leur permettait de vivre avec leurs produits, il n'y aurait pas tout ce tracas.
Eh bien, comme on l'avait vu au cours d'émissions précédentes,
oui.
C'est très clair. C'est un tracas pour les agriculteurs. Une partie d'entre eux sont actuellement dans une situation très difficile, simplement en termes de revenus. S'ils sont endettés, la situation devient quasiment dramatique. Mais, à côté de ça, et ne pas oublier, lorsqu'on dit les agriculteurs, je rappelle quand même qu'il y a des agricultures. Il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures.
Tout à fait.
Et en parlant de ça, il y en a qui sont dans certains secteurs en difficulté et d'autres, dans d'autres secteurs, ne sont pas du tout en difficulté. On pourrait s'interroger s'il n'y aurait pas une manière de rendre tout ça un peu uniforme. Bon, si les aides de l'Europe cessent, qui est un risque vu le mouvement anti-européen, on approche des élections et on va voir ce que ça donne. Mais on voit bien qu'il y a des mouvements anti-européens qui sont importants et qui auront des votes. Et la fin des subventions agricoles va être un désastre dans l'agriculture, un désastre immédiat. Mais lorsque le nombre d'agriculteurs diminuera, lorsque les terres changeront de destination éventuellement, eh bien pour ceux qui restent, le prix des produits agricoles va augmenter. Augmentera. C'est la règle de la rareté, très simple. Moins il y a de produits, plus il est cher. Et quelque part, les consommateurs paieront, comme d'habitude. Mais d'ici là, il y aura une destruction agricole massive. Ne pas se faire d'illusions. Parce que dans l'agriculture comme ailleurs, eh bien, il y a la règle qui s'applique à toute entreprise. Si tu es plus compétitif, tu ne l'es plus. Et ça va s'appliquer à ce moment-là brutalement. Par rapport à de l'agriculture en Europe, je ne parlerai pas, par exemple, un cas typique, c'est la tomate. Avec la tomate venant du Maroc, la tomate qui vient du sud de l'Espagne chinoise, et la tomate que l'on mange, les petites tomates d'apéritif que l'on mange l'hiver, qui viennent pour partie des Pays-Bas, qui sont cultivées en serre chauffée, etc. Et donc tout ça retrouvera un équilibre nécessairement. Le monde de l'agriculture deviendra comme un monde d'entreprise. Le meilleur survivra. Et les autres disparaissent.
Oui, mais
est-ce
alors,
qu'on veut ça?
Est-ce alors, qu'on veut ça dans l'Europe? Là, on quittera là l'Europe du goût.
Ah, mais oui. Et ça,
on
c'est
est d'accord.
Ça, c'est une autre question.
Ah oui,
aussi.
Mais elle existe.
Elle existe. Mais disons, c'est pas ma spécialité. Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur le secteur du goût.
Tout à fait.
Sauf à regarder évidemment les revues de consommateurs qui alertent avec raison sur des tas de choses aujourd'hui. Mmh. Presque on ne veut plus rien manger.
La solidarité, est-ce qu'elle existe entre les pays? Vous en avez parlé un petit peu. Est-ce que le fait d'aider les pays pauvres, c'est solidaire ou est-ce que c'est un devoir de l'Europe?
Ah, c'est le devoir fondamental de la création de l'Europe. Et c'est bien écrit dans ses statuts. Ouais. L'idée européenne, c'est de mener chaque État dans l'égalité. La réalité est là. Les résultats sont là. Mmh. Mais on voit même des pays qui ont été massivement aidés. Eh bien, comme on dit habituellement, le chien mord celui qui lui donne sa pâtée. Donc, on voit dans ces pays des mouvements anti-européens qui se développent depuis 2-3 ans et qui vont certainement aussi avoir des résultats au niveau des votes. Anti-européens, qu'est-ce qu'ils font s'ils se retournent derrière eux pour regarder? Non, ils nient l'aide européenne. Ils oublient complètement la construction européenne par rapport à la paix. Le pays qui aurait le plus à se plaindre en Europe, c'est la Grèce, soyons objectifs. Mais on en a fait déjà une émission, voire deux,
oui,
il y a un certain temps. Vous pouvez les voir en replay sur le site de Radio Galaxie, ne jamais l'oublier. Et très simplement, la Grèce, elle est allée au-delà de toute mesure. Et là, c'est une autre façon d'aborder les règles européennes et le traité de Maastricht.
Le Brexit, est-ce que ça va amputer l'Europe et en quoi ça peut l'amputer?
Le Brexit, on ne sait pas. Nous sommes pour le mois de février. On ne sait pas si la rupture se fait au mois de mars. Est-ce qu'ils sont toujours en négociation, mais qu'est-ce qui va en sortir? Est-ce qu'il va avoir lieu? Est-ce qu'il va être sec ou est-ce qu'il va être aménagé? Il est clair que les Britanniques ont voté à l'époque à 51,4% pour sortir de l'Europe. Si on revotait en Grande-Bretagne maintenant, les sondages indiquent qu'il ne serait plus que 30%. Mais bon, les Britanniques resteront toujours égaux à eux-mêmes dans le comportement politique et ne pas oublier qu'ils sont un royaume comme tel. Ils ont un roi, donc qu'ils gardent leur roi et on verra bien ensuite ce que dira la reine en l'occurrence.
Oui.
Ce qui va se passer avec le Brexit, s'il se fait, il y a deux choses. Il y a les données économiques et puis la donnée politique. Vous le savez, tout le monde s'interroge dans ce Brexit. Alors, est-ce que c'est un Brexit dur ou pas? Que va devenir l'Irlande du Nord? En Irlande du Nord, ils sont prêts à s'entretuer de nouveau. C'est très clair. Il y a eu déjà des actions, des opérations et des mitraillages en janvier et en décembre. Ils sont prêts. Si on refait la frontière, c'est très clair, ça va recommencer. Ça, c'est de la géopolitique. L'Europe a été construite pour faire une zone de paix entre nous, que l'on ne recommence pas. On l'a fait deux fois, quand même. Et pour les Français, trois fois en remontant au 19e siècle. Donc, ça suffit. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est économie. Beaucoup d'entreprises assez grandes sont imbriquées avec la Grande-Bretagne. Que va-t-il se passer là-dessus? Pour les Anglais, actuellement, c'est en cours, il n'y a pas de mystère. Le chômage augmente fortement en Grande-Bretagne parce que beaucoup d'entreprises réduisent leurs effectifs parce que, à cause du Brexit, ils reviennent en France ou en Allemagne, ou en Belgique ou aux Pays-Bas. Mmh. Ils reviennent. Ils avaient fait des filiales là-bas parce que le salaire est moins cher, parce que les règles sociales ne sont pas contraignantes. C'est attractif, la Grande-Bretagne. Vous licenciez quelqu'un, du jour au lendemain, il n'y a rien. Et il peut venir pleurer avec le rabbin ou le pasteur, il n'y aura aucune conséquence. Il y a une règle précise d'indemnité, c'est terminé, oui. Au revoir. En France, on peut passer au prud'homme, on peut passer ceci. C'est plus long, le licenciement. C'est plus problématique, ça peut coûter très cher. Des entreprises, c'est ça, la délocalisation. Et puis ensuite, c'était un marché pour nous. Vous savez, les Anglais sont, en termes agricoles, ils ne produisent pas grand-chose. D'ailleurs, on voit mal en Angleterre ramasser des bananes l'hiver, comme on dit. Mais à part de faire des choux et des poireaux, ils sont limités. Du moins tant que le climat n'aura pas radicalement changé. Mmh. Donc ils sont un partenaire de produits alimentaires. L'Espagne la fournit à plein camion, que nous voulions traverser nos régions. Et lorsqu'ils veulent s'échapper au péage d'autoroute, ils prennent les petites routes là, dans les collines du Volvestre. Et on le voit, on sait où ils vont. Ils montent prendre les ferries à Cherbourg ou à Nantes, etc. pour passer en Grande-Bretagne. Ils amènent les produits du Portugal, de l'Espagne et même du Maroc. Et demain, j'ai des cas de camions venant du Sénégal. pour vous donner une idée. Donc, on va perdre ce client. Dans l'économie, il y a ça. Mais, à l'inverse, les entreprises britanniques, par exemple les entreprises financières, viennent s'implanter en Europe. Si jamais c'est coupé, il faut qu'ils aient des services bien implantés, donc du monde, en Europe, pour continuer leur business financier,
oui,
qui est tout à fait discutable. Mais c'est des emplois. Mmh. Et en général, on ne regarde que les emplois. On ne regarde pas la morale. Et dernier point que j'ajouterai en termes économiques, qui est lié au président américain, à l'attitude américaine. C'est-à-dire que les Américains, et le président Trump, certainement, ils ne vont pas laisser la Grande-Bretagne s'enfoncer. C'est leur allié le plus proche. Une grande partie de sa population est originaire d'Irlande et d'Angleterre, ils ne vont pas le laisser s'effondrer. Ça sera leur allié jusqu'au bout. Les Américains trouveront un moyen de les aider en quelque sorte. Il y a des entreprises américaines qui partiront d'entrée faire des filiales en Grande-Bretagne parce que le gouvernement leur a dit « il faut faire comme ça si tu veux me vendre des avions » par exemple.
Oui.
Airbus a été obligé, répartition entre tous les États, d'avoir une entreprise en Angleterre. Mm-hmm. Ce qui est paradoxal parce que la compagnie britannique d'avions n'achète jamais un Airbus, que des Boeing. Et nous, on a une usine là-bas. Oui, un petit paradoxe quand
oui,
même.
Oui, tout à fait. Justement, si l'Amérique se mêle du Brexit, est-ce que ça ne va pas faire vilain ?
Elle s'en mêle déjà, donc je ne vois rien de vilain pour l'instant. Et je tiens à dire que dans cette fin janvier, début février, eh ben, ils s'en mêlent, mais personne n'en a l'air très très choqué.
Bon, d'accord.
On n'est pas choqué par d'autres interventions américaines en Amérique du Sud.
Oui, d'accord. Tout va très vite maintenant. L'Europe virtuelle, est-ce qu'elle existe ou pas ?
Pour moi, elle n'est pas virtuelle. Pour moi, elle est concrète. Et pour moi, en tant que citoyen et en tant qu'économiste, c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'elle continue son chemin, qu'on reforme son fonctionnement aussi, je trouve ça important. Elle a le fonctionnement de sa création. Il faut passer à quelque chose d'autre. C'est sûr, en termes, par exemple, de démocratie, c'est une chose. Mais surtout, à travers cette démocratie, quels sont ses objectifs ? Concrètement, comment elle fonctionne et comment elle met en place ? Ça, c'est extrêmement important, parce que même si son budget n'est pas extrêmement important, amener à la hauteur des 27 États, les 27 États font presque 15 000 milliards d'euros de PIB. Et le budget Europe, 155 milliards. Mmh. Vous voyez que c'est peu de choses, ça fait 1% de fait, mais ce n'est pas négligeable quand on reçoit l'argent. Et ensuite, que l'Europe ne perde pas de vue que son objectif, c'était la paix en Europe. Et la paix en Europe, c'est évidemment, essentiellement, pour qu'il y ait une forme d'égalité économique entre les peuples, qu'il n'y ait pas des peuples hyper en revenus et des pays très très pauvres. L'Europe jusqu'à présent, elle a cherché à atténuer cet effet. Là où ils étaient très pauvres, il faut aider pour que ça se développe et on s'occupe moins de là où c'était très riche, c'est sûr. Mais là aussi, dans nos débats actuels, y compris dans notre société française, il faudrait que l'Europe garde bien ce cap.
Les remboursements de la dette des pays, est-ce que l'Europe surveille aussi ça ?
Une des créations de l'Europe dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui fait partie apparemment des acquis auxquels il ne faut pas toucher, quel que soit le peuple, c'est l'euro. L'euro s'est inscrit dans les buts dans les années 70, d'avoir une monnaie unique, ce qui a amené une stabilité, une absence de compétitivité masquée. Vous savez, on peut être compétitif par le prix, mais on peut être compétitif par la monnaie. Et ça, c'est extrêmement fluctuant et ça a avantagé évidemment les grandes multinationales. Donc le principe de l'euro, c'est la Banque Centrale Européenne. Évidemment, on peut la critiquer tant qu'on veut et à tour de bras. Qui dirige la Banque Centrale Européenne ? C'est des gens très très loin, qui sont bien payés, vous l'imaginez, etc. Mais disons que jusqu'à présent, ils le font d'une manière, selon les règles qu'on aura établies. Et cette monnaie, c'est la deuxième monnaie mondiale. Il y a le dollar et il y a l'euro. Bon, d'après beaucoup de gens en économie, il faudra attendre une dizaine d'années, mais on va voir arriver la monnaie chinoise, certainement, qui sera la troisième. Puis peut-être après, on verra une autre monnaie revenir. Personne ne parle d'ailleurs de la monnaie russe. C'est vraiment qui viendrait. Mais à les savoir, peut-être.
Oui, mais
qu'elle
la Russie
viendra.
Ne fait pas partie de l'Europe.
Non, mais au niveau des échanges mondiaux,
oui.
Vous savez que vous avez de l'euro, vous pouvez aller dans n'importe quel pays du monde, on vous regarde comme le Père Noël.
Oui, oui, oui,
ah,
d'accord.
Et oui, oui. C'est une vraie monnaie stable, garantie. Il faut se rappeler le franc, les dévaluations. Qui se rappelle les inflations de la fin des années 70, des 13-14% dans l'année? Est-ce qu'on imagine ça aujourd'hui? Est-ce que vous voyez gérer votre budget, votre entreprise, votre service avec des évaluations de telle façon? C'est ça le concret. Donc l'euro, il y a une monnaie stable qui est appréciée de tout le monde, qui sert à tous les épargnants. Il faut voir ce qui s'était passé en Grèce. C'était l'exemple.
Oui,
quand ça, on a l'aidé, etc. Ils ont fait un vote à l'intérieur de la Grèce. Bien sûr, les Grecs étaient furieux contre les règles qu'exigeaient l'Europe, le respect de certains engagements, ils étaient furieux. Mais surtout ne pas sortir de l'euro. Et on a vu des partis politiques français totalement opposés à l'Europe qui clament sur leurs affiches, puisqu'on va bientôt poser, que eux, ils conserveront l'euro. Donc c'est quand même l'Europe, c'est la pire des choses pour certains, mais la monnaie, attention, c'est le portefeuille, on ne blague pas avec.
Une dernière question, est-ce qu'on peut sortir de l'Europe et garder l'euro? Justement, vous venez d'en parler.
Sortir de l'Europe et garder l'euro, non. A priori, non. Mais encore faut-il obtenir le résultat de l'Europe. Parce que sortir de l'Europe, on le voit bien avec le Brexit, vous prenez la décision, l'Angleterre, mais après, il faut discuter de l'après. Et c'est dans la discussion de l'après que c'est très important pour l'Angleterre. C'est coincé, décoincé, mais la façon dont ça se fait et dont ça se fait pose beaucoup de questions pour l'avenir, des questions politique, sociale, juridique, de tous ordres. Je pense qu'on est sur une discussion qui n'aboutira à rien de vraiment sérieux. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, qui n'est pas partagée par tout le monde. Mais la monnaie unique, c'est devenu, non pas la monnaie unique, c'est devenu notre monnaie. Et c'est très important et c'est une grande, un grand apport, une grande conquête, un grand bonheur pour l'Europe.
Pour conclure ?
Ah, pour conclure. Dans ce joli mois de février, où enfin le beau temps nous est revenu et où dans lequel on a vu concrètement le réchauffement climatique. Est-ce que vous avez vu que les arbres fleurissent? Est-ce que vous avez vu que les abricotiers sont en fleurs dans notre région? À Perpignan, c'est normal, mais pas ici quand même. À Perpignan, ils ont toujours du soleil. Et ainsi de suite. Est-ce que vous avez vu la migration des oiseaux qui s'est faite massivement, fin janvier, début février? Voilà des indices de ce qui change aussi dans le monde, dans cette écologie nécessaire par rapport à notre planète. Parce qu'on voit concrètement autour de nous des tas de choses qui se modifient et on n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour dire si ça continue, on va être mal. Pensons à l'Europe, oui, mais pensons à notre planète, c'est ça de faire une économie d'un désastre.
Merci.
Merci à tous.